A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Benjamin Spencer. Benjamin Spencer est un Afro-Américain de 54 ans qui a été arrêté en mars 1987 pour le vol et l'assassinat de Jeffrey Young, propriétaire d'une entreprise à Dallas. Il clame son innocence depuis le premier jour de son incarcération et c'est un cas emblématique du système judiciaire américain. Les accusés à tort aux États-Unis doivent souvent attendre plusieurs dizaines d'années derrière les barreaux avant d'enfin obtenir justice. Est-ce le cas aussi de Benjamin Spencer ? Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir l'histoire incroyable de Benjamin Spencer derrière les barreaux depuis l'année 1987 pour un crime qu'il n'aurait peut-être pas commis. Le 22 mars 1987, Jeffrey Young, âgé de 33 ans, se rend à son bureau un dimanche soir au lieu de se détendre avec sa femme et ses trois enfants. Il doit se rendre à Taïwan au début de la semaine pour rencontrer un important client et tout doit être bien préparé. À 20h21, les caméras de sécurité montrent Young en train d'ouvrir la porte de l'immeuble. 25 minutes plus tard, il téléphone à Troy Johnson, un technicien informatique, car il ne comprend pas pourquoi son ordinateur ne marche pas. Troy l'informe que l'ordinateur est en maintenance. Un quart d'heure plus tard, Troy Johnson rappelle le bureau de Young. Il laisse sonner longtemps, mais il ne reçoit aucune réponse. Il se dit que Jeffrey Young, fatigué d'attendre, est peut-être rentré chez lui. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé dans les locaux ce soir après l'appel manqué de l'informaticien. Plus tard, la police a reconstitué les faits en extrapolant. Selon elle, deux voleurs ayant aperçu la voiture de Jeffrey Young, une belle BMW 320i argentée dans le parking, flairent la bonne occasion. Ils s'arrangent pour entrer dans le bâtiment, faire irruption dans le bureau et surprendre Young en plein travail. Ils le menacent alors avec un objet contondant, comme un marteau ou une batte de baseball par exemple. Lui font la poche, retirent l'argent de son portefeuille, le dépouillent de sa montre Seiko, de sa bague de mariage et n'oublient pas de prendre avec eux la télévision portable du bureau. Les agresseurs frappent Young brutalement et lui fracturent le crâne. Ils le mettent dans le coffre de la BMW et traversent la ville en trombe jusqu'au quartier Padgett, l'un des plus pauvres et des plus violents de la ville de Dallas. Sur place, aux environs de 22h, ils jettent le corps de Young en pleine rue. Quelques mètres plus loin, ils se précipitent hors du véhicule. À l'arrivée des ambulanciers, appelés par les habitants du quartier, Young est toujours en vie mais il sera déclaré mort à 3h du matin. Lundi matin, les enquêteurs commencent par interroger les voisins qui auraient pu voir l'arrivée de la voiture et la fuite des deux voleurs, mais les habitants de ce quartier, à majorité afro-américaine, se montrent peu coopératifs. Une certaine Gladys Oliver, âgée de 42 ans, ayant d'abord affirmé à la police n'avoir rien vu, comme la plupart de ses voisins, va appeler ensuite en cachette Crime Stoppers, une organisation qui fournit des informations anonymes à la police et qui offre des récompenses pour les informations qui mènent à une arrestation. Gladys leur dit qu'elle a des révélations à faire. Crime Stoppers l'informe qu'elle doit d'abord raconter ce qu'elle a vu à la police pour pouvoir recevoir sa récompense. Madame Gladys Oliver se rend donc immédiatement à la police et leur déclare qu'elle vient de soudainement retrouver la mémoire. Elle raconte alors que depuis la fenêtre de sa chambre, elle a vu un jeune homme sauter du siège du passager de la BMW, effiler à toute vitesse, et un autre jeune homme, petit et trapu, sortir du côté du conducteur et se diriger vers le coffre. Elle connaît bien les deux hommes car ils habitent le même quartier qu'elle. Le trapu s'appelle Robert Mitchell et l'autre, un ami de son fils, s'appelle Benjamin Spencer. 4 jours après le crime, la police arrête Benjamin Spencer. Benjamin Spencer a 22 ans en ce temps-là. Il travaille la nuit pour charger et décharger des camions. Nouvellement marié, il aime sa femme, Debra, qui en plus attend leur premier enfant. Mais le dimanche du meurtre de Jeffrey Young, le couple se dispute pour des broutilles. Debra se fâche et décide de se coucher tôt, alors que Benjamin, lui, tout aussi contrarié, préfère plutôt errer tout seul dans le quartier. Il s'acoquine avec Christy Williams, une jeune lycéenne du voisinage, et décide de se rendre à bord de la Thunderbird rouge de sa propre femme dans un parc voisin pour passer la nuit avec elle. La police perquisitionne la maison de Spencer et ne trouve aucun des objets volés. Elle ne trouve pas non plus l'arme du crime. Elle interroge un autre voisin du nom de Jimmy Cotton. Désigné par le premier témoin, Gladys Oliver, ce dernier confirme les propos de Gladys et décrit la même séquence d'événements. Il ajoute qu'il a vu Spencer sauter par-dessus une clôture, séparant l'allée où la BMW a été trouvée, et courir dans l'allée. Il dit avoir ensuite vu Benjamin Spencer monter dans une Thunderbird rouge. Un autre témoin du quartier, Charles Stewart, va corroborer le récit de Cotton et de Gladys. Il y a donc désormais trois témoins qui affirment que Benjamin Spencer a quelque chose à voir avec ce meurtre. Charles Stewart, Jimmy Cotton et Gladys Oliver. Mais Benjamin ne s'inquiète toujours pas. À son avis, puisque la police n'a trouvé aucune preuve matérielle le reliant au crime, pas d'empreinte digitale, pas d'arme du crime, pas de montre Seiko, d'alliance, de serviette ou de télévision portable, il est persuadé qu'il sera libéré d'ici quelques jours. Mais suite au dire des trois témoins oculaires qui campent sur leur position, Benjamin Spencer est retenu en prison pour le meurtre de Jeffrey Young. Le procès de Spencer commence 7 mois après les faits, le 26 octobre 1987. La défense ne s'appuie que sur un témoignage, celui de Christy Williams, qui déclare avoir passé toute la nuit avec Spencer. Ce ne sera visiblement pas suffisant car à peine 4 jours après le début du procès, le jury va déclarer Spencer coupable de meurtre et le condamnera à 35 ans de prison. Mais l'avocat de la défense ayant découvert dans les dossiers du procureur un document indiquant que la cupide Gladys Oliver, le témoin clé de l'affaire, a reçu une récompense de Crime Stoppers, chose que le procureur a omis de divulguer, suggérant même à Gladys de le nier. Le juge se voit dans l'obligation d'accorder un nouveau procès à Spencer. Au deuxième procès, malgré les propositions de l'État et les conseils de son avocat, Benjamin Spencer ne veut toujours pas plaider coupable. Il se dit innocent et confiant dans la justice. Gladys, elle, malgré qu'elle ait omis de parler de la récompense, semble crédible par son attitude humble et sa façon d'être. Elle donne l'image d'une bonne maman afro-américaine, digne de confiance, et elle fait très bonne impression sur le jury. En plus, lors de ce deuxième procès, il y a un nouveau témoin, un prisonnier nommé Danny Edwards, qui s'est retrouvé pendant un moment dans la même cellule que Spencer, et il jure que Spencer lui a avoué le meurtre de Jeffrey Young. Il montre même au jury comment Spencer a saisi la victime par la cravate pour l'étouffer. Edwards affirme aussi que Spencer conduisait la BMW de la victime. Bizarre car les trois témoins avaient tous déclaré que Spencer était le passager, pas le conducteur. De plus, la victime portait des vêtements de jogging et n'avait absolument pas de cravate. Les affirmations du prisonnier ne semblent donc avoir aucun sens, mais malgré l'incohérence de ses déclarations, il ruine définitivement toutes les chances de Spencer que le jury déclare coupable de vol qualifié et condamne à la prison à vie. Spencer est en prison pour le restant de ses jours et il faut donc se résoudre et accepter son sort. Mais c'est quelque chose que Spencer n'arrive pas à faire. En janvier 1990, il demande de l'aide à Centurion Ministries, une organisation d'enquête et de défense pour les personnes condamnées à tort, car il n'arrive pas à se faire à l'idée qu'il va passer le restant de ses jours en prison. 14 ans plus tard, en 2004, Jim McCloskey, le fondateur de Centurion Ministries, encourage Spencer à déposer une requête afin d'obtenir l'annulation de sa condamnation sur la base de nouveaux éléments de preuve. Il vient de retrouver de nouveaux témoins, d'entendre des rétractations d'anciens témoins et de découvrir de nouvelles preuves qu'il considère comme disculpatoires. Il engage même Cheryl Watley, un ancien procureur fédéral, pour représenter Spencer. Et quand, en janvier 2007, Rick Magnis, un ancien défenseur public, est nommé juge au tribunal de district du Texas, Jim McCloskey pense que c'est le moment propice pour représenter le dossier de Spencer. Le juge Magnis est un homme plutôt honnête, qui ne fait en général jamais d'erreur. Il a bien vu que l'innocence de Spencer ne repose sur aucune preuve concrète et irréfutable comme l'ADN, et il prend la décision extraordinaire de fermer son tribunal pendant une semaine pour examiner les preuves. Lorsqu'il a terminé ses recherches, le juge Magnis va accepter de tenir une audience sur les nouveaux éléments de preuve afin de déterminer si ces preuves méritent un nouveau procès. L'audience va débuter le 24 juillet 2007. Gladys Oliver, le témoin clé de l'époque, âgée maintenant de 62 ans, tient toujours bon, insistant sur le fait qu'elle a bien vu Spencer quitter la BMW. Mais le deuxième témoin, Jimmy Cotton, change de déclaration et affirme désormais qu'il n'a en réalité jamais vu le visage de l'homme qui avait fui la voiture. Il n'y a plus de troisième témoin car Charles Stewart a été tué dans les années 1990 à cause du trafic de drogue. Interrogé par le juge Magnis, Danny Edwards, l'informateur de prison, se rétracte aussi, déclarant qu'en réalité, Spencer ne lui a jamais avoué le meurtre. L'avocat Cheryl Watley appelle aussi plusieurs nouveaux témoins dont Sandra Brackens, qui affirme avoir vu l'auteur du meurtre passer devant elle et que ce n'était pas Benjamin Spencer. L'équipe de défense initiale de Spencer ne l'a pas appelée à témoigner car elle était mineure à l'époque. Paul Mitchell, un spécialiste des sciences visuelles, est ensuite appelé à la barre. Il explique à la cour ce qui serait nécessaire pour identifier de manière positive une personne dans la nuit et conclut qu'aucun des trois témoins n'aurait pu identifier l'homme qui quittait la BMW. L'avocat Cheryl Watley présente ensuite le cas de Michael Hubbard, âgé de 22 ans à l'époque des faits et voleur accompli, qui s'était vanté devant ses amis le soir du meurtre d'avoir volé une montre, une télévision portable, une alliance et de l'argent. Très étonnant car la police n'avait jamais divulgué les détails de ce qui a été volé à Young. Michael Hubbard a été reconnu coupable d'un autre vol qualifié, aggravé en 1987. Deux ans après sa libération conditionnelle en 1992, une série de vols violents terrorisent Dallas. Toujours le même scénario. Un homme d'affaires quitte le bureau, le voleur l'attend en pleine nuit et le frappe au crâne avec une batte de baseball. Hubbard purge d'ailleurs une peine d'emprisonnement à perpétuité liée à l'un de ses assauts. Sa culpabilité n'a pas été prouvée lors du dernier procès de Spencer car ses empreintes ne correspondaient à aucune de celles trouvées dans le bureau ou dans la BMW, mais le doute persiste. Le 28 mars 2008, le juge Magnis déclare que Spencer mérite un nouveau procès sur la base de son innocence réelle. Pourtant, la cour d'appel pénale trouve que les preuves ne sont pas assez suffisantes et que l'innocence de Spencer n'est basée que sur des hypothèses. Selon la cour, Spencer n'a pas à semer le doute sur le travail mal fait des enquêteurs, mais doit plutôt prouver son innocence pour pouvoir sortir de prison. Cela fait maintenant plusieurs années que Spencer voit ses requêtes de libération conditionnelle annulées. Les juges et la famille de Jeffrey Young s'opposent à sa libération, et il semble bien que si l'équipe de défense de Spencer n'a pas un jour l'incroyable chance de trouver l'ADN du véritable meurtrier, Spencer finira ses jours en prison, et ce, même si un juge l'a déclaré innocent. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.